Il s'agit toujours de croire en un Dieu unique.
Donc il s'agit de croire en un Dieu unique, créateur, et en Jésus-Christ, né de Marie, une jeune fille vierge. Ce Jésus-Christ a été crucifié sous Ponce Pilate, crucifié pour le salut des hommes. Il est ressuscité, il viendra un jour juger les vivants et les morts. Si je posais la même question à un catholique, lui, il verrait certainement beaucoup de différences, comme nous on en voit. Les protestants ne supportent pas le culte de la Vierge. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Il n'y a pas de liturgie, pas de dentelle, pas d'encens. L'ambiance est différente. La place de la Bible est différente. Certaines doctrines sont différentes. Les pasteurs se marient, ils ont des enfants. On pourrait se poser les mêmes questions pour savoir la différence entre les protestants et les évangéliques. Et ensuite, la différence entre les différents courants des évangéliques. On va lire un passage dans lequel c'est pas ces différences qui importent. Ce passage nous amène à distinguer au sein de chaque confession ceux qui vivent réellement avec Dieu et ceux qui sont sur le banc de touche. Entre ceux qui ont le Saint-Esprit en eux et ceux qui ne l'ont pas. Entre ceux qui sont vraiment chrétiens et ceux qui n'en portent que le nom. C'est comme une ligne de démarcation, une ligne qui zigzague à l'intérieur de ces communautés. Alors, avant de faire la lecture dans les Galates, un tout petit mot sur le contexte. Paul écrivait aux Galates en l'an 49. Bon, ça fait déjà un certain temps, c'est pas 1949, hein. C'est 49 tout court. Il avait annoncé l'évangile dans une province romaine, la Galatie, qui est dans la Turquie actuelle. Des communautés, des églises avaient été créées avec des gens d'origine juive et des gens d'origine païenne. Et ces églises étaient envahies par des gens très zélés qui voulaient les amener ou les ramener à une sorte de fondamentalisme juif. Et Paul leur écrit, mais non, vous n'avez pas besoin de tout ce carcan de règles. Pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, il suffit d'avoir la foi en Christ, tout simplement. Alors, c'est pas parce que on est beau et mieux que les autres que Christ nous accueille, c'est une grâce. Sauvé par la grâce seule, sauvé par la foi seule. Alors, tout ça, c'est biblique, mais en même temps, c'est quelque part un peu dangereux. Parce que si on comprend les choses de travers, on va dire qu'on peut se permettre n'importe quoi, que rien n'est grave, que seulement par la foi, on sera toujours en règle avec notre Dieu. Et c'est une illusion, une terrible illusion. Alors s'il est tout à fait exact de dire que nous sommes sauvés par la grâce seule, la foi seule sauve, mais elle ne reste jamais longtemps seule. Aux Éphésiens, Sam nous a lu ce matin, la foi se voit. Et l'apôtre Paul a voulu combattre l'illusion de la grâce trop facile, le pardon à bon marché, de la foi qui s'adapte et s'accommode de mille et une incartades. Avant de lire dans les Galates, on lira quelques versets dans l'évangile de Jean, Jean 8, versets 31 à 39. Donc c'est Jésus qui parle. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et les Juifs lui répondent « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors lisons dans les Galates. Je vais vous lire le passage dans la version du Semeur. C'est Galates 5, à partir du verset 13. Et donc c'est Paul qui parle à ces chrétiens de Galatie. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, c'est pas moi, hein, c'est Paul. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres, de nous jalouser mutuellement. Paul, avant cela, a consacré 4 chapitres pour dire que nous ne pouvons pas atteindre Dieu par nos propres efforts, par notre religion, par notre moralité. C'est une fausse piste. Et il la connaissait bien, il l'avait suivie. Il l'avait suivie dans un contexte de judaïsme pur et dur. Et de nos jours, quelques-uns suivent encore cette voie dans le contexte du christianisme. Dans cette lettre aux Galates, on a donc 4 chapitres pour dire que Christ est mort pour nous, que par la foi en lui, la foi toute nue, toute crue, nous pouvons être sauvés. Et au 5e chapitre, Paul répond à ceux qui disent « c'est trop facile ». Il met là les Galates en garde contre l'illusion de croire que le chrétien est libre de faire n'importe quoi. Un petit mensonge de temps en temps, une situation conjugale irrégulière, une vie d'église en pointillé, une pratique commerciale douteuse, enfin j'en passe, pas mal. Dieu s'arrangera bien à nous pardonner tout ça. Et si je tiens ce langage, c'est peut-être que je ne suis pas un chrétien du tout, que le Saint-Esprit n'est pas présent dans ma vie, que je vis une illusion. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je vais trouver que le péché, finalement, c'est pas grave. Mais si l'Esprit en moi est en moi, son fruit se verra, l'amour, la paix, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est pas facile, hein. Ce texte nous rappelle que nous sommes appelés à la liberté de l'amour. Regardons un peu plus en détail. Au verset 13, Paul dit « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme les hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Nous sommes appelés à la liberté. Quelle liberté ! Déjà, et surtout, à cette immense liberté que nous avons par rapport à la condamnation ou au jugement de Dieu. Nous sommes sauvés, nous sommes libres. On a aussi une immense liberté par rapport à des pratiques religieuses toutes plus contraignantes les unes que les autres. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais cette liberté, ne la perd-on pas si on revient à une vie dominée par le péché? Alors pour conserver cette liberté, il faut aimer et servir. Encore un paradoxe. Comment être libre tout en étant esclave? Et Paul utilise ici un mot qui indique vraiment le service des esclaves. C'est étrange, non? Christ nous a rendus libres pour que nous servions comme des esclaves. Il y a un siècle et demi à peu près, aux Antilles, dans les champs de canne à sucre, l'esclave était là parce qu'il avait été fait prisonnier, il avait été vendu à un grossiste, grossiste en esclave, pourquoi pas, racheté par un patron de bateau, racheté encore par un colon. Il était au bout d'une longue chaîne de violence et d'injustice, et je pense que son cœur était tantôt amer et tantôt résigné. Est-ce que notre esclavage est de ce type? En Christ, nous sommes au service les uns des autres parce que Jésus a rempli notre cœur d'amour. La chaîne qui nous lie n'est pas celle de l'injustice, c'est celle de la gratitude envers Christ. Elle commence dans le sacrifice de la croix, dans la justice de Christ, dans l'amour de Dieu, dans la paix. Et c'est ça qui nous motive maintenant. Non plus la crainte du jugement de Dieu, pas non plus la peur de désobéir à une loi, mais l'amour de Christ. L'amour qui est le summum du fruit de l'Esprit. À l'opposé de cela, il y a ce que les anciennes traductions appelaient, au verset 19, l'esclavage de la chair ou les œuvres de la chair. Et on en a lu la liste dans les versets suivants. une longue liste qui inclut non seulement les débordements sexuels, mais la haine, la jalousie, la magie, le culte des idoles et un tas d'autres choses. Dans le fruit de l'esprit, il y a une sorte de cohérence. Tout est paisible. L'amour, la patience, la fidélité, la paix. Et dans ce que produit la vie sans Dieu, il y a une grande énergie violente et désordonnée, débauche, querelle, colère, ivrognerie. Paul est en train de nous dire qu'il y a là deux humanités qu'il faut choisir à laquelle nous voulons appartenir. Au verset 16 et 17, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Car ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. » La vie sans Dieu nous promet la liberté. Elle nous rend esclaves. La vie avec Christ nous fait esclaves, mais nous donne la liberté. Donc il y a deux styles de vie, bien différentes, celle soumise à l'Esprit de Dieu et celle sans l'Esprit de Dieu. Et nous devons choisir entre l'une ou l'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors l'apôtre Paul savait pertinemment que tous les non-chrétiens de son temps ne manifestent pas tous les vices qu'il énumère. Paul a côtoyé des hommes justes, des hommes qui l'ont protégé contre le lynchage, des hommes honorables dont nous pouvons le souvenir dans les pages de la Bible, des hommes dont la conscience était éclairée. Comme il y a des chrétiens ou des soi-disant chrétiens qui sont incohérents et qui vivent comme des païens, de même il y a des athées, des païens incohérents qui vivent comme des chrétiens. À certains chrétiens, on a envie de dire « mettez vos actes en accord avec votre foi ». À certains païens, on a envie de dire « mettez votre foi en accord avec vos actes ». La liberté à laquelle Christ nous appelle, la liberté de l'esprit, est en opposition au penchant naturel de nos vieil homme. Le verset 22 nous parle du fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y en a qui imaginent la vie chrétienne comme un carcan, une prison. Qui imaginent la vie avec Christ comme une série d'interdits. C'est pas vraiment ça. Quoi de plus libérateur que d'apprendre à sortir de l'égoïsme et apprendre à développer la générosité? Quoi de plus libérateur que d'apprendre à aimer l'autre comme soi-même? La maîtrise de soi signifie être libre par rapport à des passions incontrôlables, la colère, la gourmandise, la débauche, l'hypersensibilité, la soif de vengeance, on pourrait en citer beaucoup. La fidélité signifie être libre. Libre d'aller loin dans ses relations, dans ses amitiés, dans son mariage, sans rompre pour un oui ou pour un non, sans trahir, sans décevoir. C'est tout un programme, non? Et l'image du fruit, le fruit de l'esprit, le fruit, ça fait penser à quelque chose qui arrive à maturation naturellement, avec du temps. Moi, je pense que la vie ne sera pas assez longue pour tous les progrès qui me restent à faire. Et on n'est pas dans une piété de passivité, on pourrait laisser faire, cesser d'exister, cesser de réfléchir et d'agir en pensant que Dieu fera tout. Je pense que notre volonté, notre action sont pleinement à l'œuvre, même si nous reconnaissons qu'à un autre niveau, un niveau qui nous est peut-être inaccessible, c'est Dieu qui est source de tout. Les bons jardiniers savent comment améliorer la production des fruits. Ils taillent les parties inutiles, ils protègent les plantes contre le gel, les insectes, la pourriture, ils arrosent, ils apportent des engrais. Et nous, nous pouvons, comme un bon jardinier, favoriser le développement du fruit de l'esprit en éliminant tout ce qui est inutile, le péché bien sûr, mais aussi les activités qui sont trop gourmandes en temps ou en énergie, ou qui ne sont pas essentielles. Nous pouvons favoriser le développement de ce fruit de l'esprit en améliorant notre connaissance de la parole de Dieu, en nous enracinant à lui par la prière. Alors pour conclure, encore un paradoxe de la vie chrétienne. Son point de départ, c'est clairement un don de Dieu. Un don entièrement gratuit, un don que nous saisissons par la foi et seulement par la foi. Mais aussitôt après s'enchaîne une vie qui est marquée par le sceau de l'esprit et caractérisée par le fruit de l'esprit, enraciné dans l'amour. Alors si nous n'avons pas le fruit de l'esprit, c'est peut-être que l'esprit n'est pas en nous. Serions-nous en train de vivre une illusion? D'imaginer que nous sommes dans la course alors que nous ne sommes même pas dans les starting blocks? Avons-nous connu un faux départ? Si c'est le cas, ne passez pas à côté de la liberté du Christ. Il vous l'offre aujourd'hui encore. Faites une introspection honnête ou laissez-la faire à Dieu. Mais en tout cas, ne vous bouchez pas les yeux ni les oreilles, parce que si vous la laissez faire à Dieu, il vous donnera le résultat. J'aimerais pour finir nous inviter tous à nous examiner honnêtement, à nous laisser envahir par Christ, par son esprit, de façon à porter ce fruit si précieux, celui de l'esprit. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous offres le salut comme un cadeau. Tu ne nous demandes rien en échange. Mais si tu nous offres le salut, c'est pour venir habiter en nous. C'est pour faire de nous tes ambassadeurs, tes représentants. Et Seigneur, que nous puissions vraiment comprendre cette grâce d'être tes représentants, comprendre cette grâce et cette responsabilité que tu nous donnes. Amen. Encore juste un mot. Bonne fête au papa.